Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Catherine, en Côte d'Or, les universités sont-elles encore un lieu de débat ou bien un endroit où une minorité fait régner sa loi ?
Non, aux États-Unis, c'est clairement un lieu de débat. C'est d'autant plus un lieu de débat qu'il ne faut jamais oublier que les universités américaines sont très isolées par rapport à la société. C'est-à-dire, en fait, elles n'ont pas de lien. Bon, elles sont sur des campus, elles sont souvent loin des centres-villes. Ou quand elles sont dans les centres-villes, elles rassemblent une certaine élite. Et elles n'ont pas le lien que peuvent avoir les étudiants français avec la société américaine.
Lieu de débat en France.
C'est vraiment un lieu de débat.
Bah, parfois, on se souhaiterait d'ailleurs que ce soit plus des lieux de débat, parce qu'on n'est pas bouleversé par l'ampleur du débat universitaire. Alors, par rapport aux États-Unis, c'est des lieux plus précarisés, en fait. L'université, c'est aussi problème depuis longtemps, mais c'est un autre sujet qu'on ne va pas développer ici. Mais bon, à la fois, il est légitime que ce soit des lieux de débat, et en même temps, il faut voir qu'à Sciences Po, ce qui bloque, c'est une minorité agissante, ça c'est évident, et qui risque d'empêcher des étudiants d'aller en examen.
Tous ces étudiants pro-palestiniens se désolidarisent-ils suffisamment du Hamas ?
Pour le coup, je ne crois pas.
Pas du tout.
C'est un vrai problème. Que ça nuit, y compris à leur cause. Je pense qu'ils ne le font ni en rappelant en même temps la nécessité de libérer les otages, ni sur la solution et la solution à deux États. Donc, ma réponse à la question est non.
Il y a un éditorial du New York Times très intéressant qui montre qu'on peut parfaitement le débat est parfaitement légitime. C'est M. Christie, je crois, qui fait mais qui explique qu'il n'a pas entendu sur les campus américains dénoncer l'homophobie, l'extrémisme du Hamas, par exemple.
Et de celui d'un certain nombre de pays, ni même une réflexion sur la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie ? On peut considérer qu'Israël, c'est l'épouvante, mais on peut aussi dire que ça fait des mois et des mois que les Israéliens manifestent contre la réforme de la justice et qu'il y a eu un réflexe de corps à cause...
7 octobre. Et aujourd'hui,
je ne dis pas, mais que en tant que démocratie, c'est pas Netanyahou avec un peuple soumis, c'est un peu plus compliqué.
Allez, il faut répondre à Yvette. Pourquoi s'étonner de ces révoltes d'étudiants pour soutenir les opprimés ? Hier, c'était le Vietnam.
Intéressant le mot opprimé. Vous voyez que ça, on est sur la grille de lecture oppresseur opprimé, et en fait ça existait déjà à l'époque du Vietnam. C'était là d'ailleurs qu'il y avait l'avènement aux États-Unis de la French Theory, ça portait de penseurs français, Foucault, Derrida, qui questionnaient les normes, les structures, qui étaient les déconstructeurs. Or ils ont été beaucoup plus écoutés aux États-Unis et dans les grandes universités américaines qu'en France.
C'était le point de départ du wokisme.
Ouais, c'est ça. Et il y a un éditorial de The Atlantic, je crois, qui en parlait en disant les universités d'élite américaines se retrouvent un peu dans ce piège-là, qui est on a voulu tout déconstruire et avoir cette grille de lecture oppresseurs opprimés, les étudiants ont tellement bien écouté que maintenant l'opprimé c'est le palestinien et on élargit à énormément d'autres problèmes.
N'est-ce pas compliqué de manifester hier en soutien aux Iraniens et aujourd'hui de se faire féliciter par les ayatollahs ?
Si, il y aurait quelque chose de très simple à faire pour que ce ne soit pas compliqué, c'est de manifester aussi contre la condamnation à mort
le traitement des femmes dans certains pays.
Dans quelle mesure le chaos actuel qui touche les universités françaises va-t-il influer sur le scrutin de juin ?
Ça, c'est le pari.
Ouais.
C'est le pari de voir si le discours équilibré de Raphaël Glucksmann passe, si les abstentionnistes macronistes qui semblent dormir se réveillent, et si l'attitude, le choix de Jean-Luc Mélenchon est quelque chose qui entraîne ou qui inquiète.
Que cherche Jean-Luc Mélenchon sinon le chaos dans un but révolutionnaire ?
Non, là, je voulais quand même préciser quelque chose. Il y a une certaine noblesse quand même à vouloir toucher la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a dans son cas un calcul qui est celui que personne ne parle à la jeunesse, à part le Front National, et qu'il est peut-être temps de lui parler. Ce calcul est peut-être un calcul hideux, mais c'est un calcul qui existe et qui mérite d'être quand même.
Joël, dans les Vosges, la tolérance est-elle toujours une valeur importante au lieu de ces jeunes ?
Je citais tout à l'heure le livre d'Anne Mixel et de Martial Foucault. Il y avait une question qui était posée sur la tolérance. Plus de 90% des étudiants de Sciences Po disaient que c'était une valeur déterminante à leurs yeux.
Se dirige-t-on vers un nouveau mai 68, en un mot ?
Il est encore autorisé d'interdire.
Allez, il est encore autorisé d'interdire, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à Sonia Dridi qui était avec nous en direct de Washington. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé en direct dès 17h30 et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay, en podcast sur France Info et le matin même sur France 5 à 9h. Belle soirée.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner, C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.